La Voix Royale par André Malraux. Première cassette, deuxième face, page 23.
Il a besoin d'argent, se répétait Claude. Pour ça, le macaque a raison, reprit le gros homme. Ce n'est pas la vie qui peut coûter cher là-haut. Vous êtes forestier ?
Chef de poste.
L'obsession envahit Claude une fois de plus, comme une crise de fièvre. Il pouvait interroger cet homme sur le terrible jeu auquel il allait lier sa vie. « Avez-vous voyagé avec des charrettes ?»«
Bien sûr que j'ai travaillé avec des charrettes, vous pensez ?»«
Combien peuvent-elles réellement porter ?»«
C'est petit, hein ? Faut des objets lourds. »«
Des pierres, par exemple ?»
Ben, le poids réglementaire, la charge, quoi, c'est 60 kilos.
Si ce poids n'était pas imposé seulement par une de ces lois coloniales qui n'existent qu'aux yeux des administrateurs, il fallait renoncer aux charrettes. L'abandon en forêt inconnue le suivait donc jusqu'ici. Faire porter à dos d'homme pendant un mois des blocs de 200 kilos, impossible. Les éléphants.
Les éléphants, jeune homme, je vais vous dire, c'est une question d'astuce.
Les gens croient que l'éléphant est délicat. C'est pas vrai. L'éléphant n'est pas délicat. La difficulté, c'est que la bête ne veut ni brancard ni sangle. Ça la chatouille. Alors qu'est-ce que vous faites, hein ?
Moi, je vous écoute.
Débonnaire, le gros homme posa la main sur le bras de Claude.
« Vous prenez un pneu d'auto, un pneu Michelin quelconque, et puis vous le passez au cou de l'éléphant comme un rond de serviette. Bon. Et puis vous attachez vos machins au pneu. Pas plus difficile que ça. C'est doux le caoutchouc, vous comprenez ?
Peut-on avoir des éléphants pour la région extrême nord ? D'Angkor, A-N-G-K-O-R. Extrême Nord, oui. Un instant de silence.
Jusqu'au-delà des dents grecques,
D-A-N-G, plus loin, R-E-K. Jusqu'à Semoun, S-E accent aigu, trait d'union, M-O-U-N.
Un blanc qui tente ça sans camarade est foutu.
Peut-on avoir des éléphants ?
Enfin, ça vous regarde. Des éléphants, ça m'étonnerait, primo. Les indigènes, ça leur dira rien d'aller se promener par là. Vous avez beaucoup de chance de tomber chez les Moy insoumis, ce qui n'est pas drôle.
Moy, M-O-I. Tréma, avec un S au pluriel bien sûr.
Et puis les indigènes des derniers villages sont impaludés jusqu'au gâtisme. Les paupières bleues comme si on cognait dessus depuis 8 jours. Capable de rien. Ensuite, si vous vous faites piquer, ce qui ne manque jamais, vous pouvez dire que ce n'est pas de bon moustique. Ah les vaches. Et puis... Enfin, pour aujourd'hui, on peut s'en tenir là. Venez vous faire un tour, voilà la chaloupe.
Non. Il suivait sa pensée. S'il a besoin d'argent, ça n'est pas pour vivre, surtout là-haut. Sans aucun doute. Pourquoi ? Bien plus que la menace de la forêt, cette légende malveillante, non sans grandeur, désagrégeait comme un ferment, comme cette nuit même, ce qui était pour Claude le réel. Chaque fois que la sirène de l'un des bateaux illuminés appelait les canots, longuement portés par l'air saturé de la rade, la ville se perdait davantage, achevait de se diluer dans la nuit de l'Inde. Ses dernières pensées d'Occident se noyaient dans cette atmosphère fantastique et provisoire. d'un grand mouvement adouci, le vent, qui apportait la fraîcheur à ses paupières, donnait à Perkin un relief qui n'était plus celui de la singularité, mais de l'adaptation. Comme tous ceux qui s'opposent au monde, Claude cherchait d'instinct ses semblables et les voulait grands. En l'occurrence, il ne craignait pas d'être dupe de lui-même. Si cet homme désirait de l'argent, ce n'était pas pour collectionner des tulipes. Sous les histoires qu'il avait contées, l'argent glissait pourtant comme en cet instant le crissement adouci des cigales sous le silence. Le capitaine lui aussi avait dit « Maintenant il s'intéresse à l'argent ». Et le chef de poste, un blanc qui tente de passer par là seul, est foutu. Un blanc qui tente de passer seul par là est foutu. À cette heure, Perkin était sans doute au bar. Chapitre 2, page 27. Claude n'eut pas à le chercher. Assis devant l'une des tables de rotin que les serveurs avaient disposées sur le pont, il tenait d'une main une coupe posée sur la nappe, mais le dos tourné, l'autre main appuyée au bastingage, il semblait regarder les lumières qui, au fond de la rade, tremblaient toujours dans le vent. Claude se sentit maladroit. « Ma dernière escale, » dit Perkin en montrant les lumières de sa main libre. C'était la gauche. Éclairée d'un seul côté par le paquebot, elle apparut un instant sur le ciel maintenant lavé et plein d'étoiles, avec un puissant relief, chacune de ses entailles changée en courbe noire. Il se tourna tout à fait vers Claude, que surprit l'expression d'abattement de son visage. La main disparut. Nous partons dans une heure. Au fait, que veut dire arriver pour vous? Agir au lieu de rêver. Et pour vous? Perkin fit un geste comme pour écarter la question. Il répondit néanmoins, « Perdre du temps. » Claude l'interrogeait du regard. Il ferma les yeux. « Ça s'annonce mal, pensa le jeune homme. Essayons autrement. Vous remontez chez les insoumis? Ce n'est pas ce que j'appelle perdre mon temps, au contraire. » Claude cherchait toujours. Il répondit presque au hasard. « Au contraire, là-haut, j'ai trouvé presque tout. Sauf de l'argent, n'est-ce pas ?» Perkin le regarda avec attention sans répondre. « Et s'il y en avait là-haut ? Allez le chercher ? Peut-être. » Claude hésita. Des chants graves dans le lointain montaient d'un temple, coupé par le klaxon de quelque auto perdu. Il y a dans la forêt du Laos à la mer pas mal de temples inconnus des Européens, avec les dieux en or, que je vous en prie. Bas-reliefs et statues, pas en or du tout, ont une valeur considérable. Il hésita encore. Vous souhaitez trouver 200 000 francs, n'est-ce pas? C'est de l'arménien que vous tenez cela. N'en fais pas mystère, d'ailleurs. Il y a aussi les tombeaux des pharaons. Quoi encore? Croyez-vous, monsieur Perkin, que j'aille chercher les tombeaux des pharaons au milieu des chats? Perkin parut réfléchir. Claude le regardait, découvrant que l'état civil, que les fêtes, sont aussi impuissants contre la puissance de certains hommes que contre le charme d'une femme. Les histoires de bijoux, la biographie de cet homme en ce moment, n'existaient pas. Il était si réel, là, debout, que les actes de sa vie passée se séparaient de lui comme des rêves. Des faits, Claude ne retiendrait que ceux qui s'accordaient à ses sentiments. Allait-il enfin répondre ? Marchons, voulez-vous ? Ils firent quelques pas en silence. Perken regardait toujours les lumières jaunes du port, immobiles sous les étoiles plus claires. L'air, malgré la nuit, collait à la peau de Claude comme une main molle dès qu'il se taisait. Il tira une cigarette d'un paquet, mais irrité aussitôt par la nonchalance de son geste, il la jeta à la mer. J'ai rencontré des temples, dit enfin Perken. Tous ne sont pas ornés d'abord. Non, mais beaucoup. Cassirer, C-A-2-S-I-R-E-R, à Berlin, m'a payé 5000 marques or les deux Bouddhas que m'avait donné Damrong, D-A-M-R-O-N-G. Mais comment chercher des monuments ? Autant chercher des trésors comme les indigènes.
Si vous étiez certain que 50 trésors ont été enfouis le long d'un fleuve, entre deux lieux précis, à 600 mètres l'un de l'autre, par exemple, les chercheriez-vous ?
Le fleuve manque.
Non. Voulez-vous aller chercher les trésors ?
Pour vous ?
Avec moi ? À égalité,
le fleuve.
Le demi-sourire de Perken irritait Claude à l'extrême. Venez voir. Dans le couloir qui les conduisait à la cabine de Claude, Perken posa sa main sur l'épaule du jeune homme.
Vous m'avez insinué hier que vous étiez en train de jouer votre dernier enjeu. C'est à ce dont vous venez de parler que vous faisiez allusion ?
Oui. Claude croyait trouver la carte étendue sur sa couchette, mais le garçon l'avait pliée. Il l'ouvrit. Voici les lacs. Tous ces petits points rouges, accumulés autour, les temples. Ces taches éparses, d'autres temples. Et ces taches bleues. Les villes mortes du Cambodge, explorées déjà. À mon avis, il y en a d'autres, mais passons. Je reprends. Vous voyez que les points rouges des temples sont nombreux à l'origine de ma ligne noire et suivent sa direction. C'est la voie royale, la route qui reliait Angkor, A-N-G-K-O-R, et les lacs au bassin de la Menam, M-E accent aigu, N-A-M. Aussi importante jadis que la route du Rhône au Rhin au Moyen-Âge. Les temples suivent cette ligne jusqu'à... Le patelin n'a pas d'importance. Jusqu'à la limite des régions réellement explorées. Je dis qu'il suffit de suivre à la boussole le trajet de l'ancienne voie pour retrouver des temples. Si l'Europe était recouverte par la brousse, il serait absurde de penser qu'en allant de Marseille à Cologne, par le Rhône et le Rhin, on ne trouverait pas de ruines d'église. Et n'oubliez pas que pour la région explorée, ce que j'avance est vérifiable et vérifié. Les récits des voyageurs anciens le disent. Il s'arrêta pour répondre au regard de Perken.
Je ne tombe pas du ciel, mais des langues orientales. Le sanskrit n'est pas toujours inutile. Les administrateurs qui se sont aventurés par là, à quelques dizaines de kilomètres de la région topographiée, le confirment.
Vous croyez être le premier à interpréter ainsi cette carte ?
Le service géographique ne s'occupe guère d'archéologie. Et l'Institut français ?
Claude ouvrit l'inventaire à une page marquée. Diverses phrases étaient soulignées.
Il reste à relever les monuments qui se trouvaient en dehors de nos itinéraires. Nous ne prétendons certes pas que nos listes soient définitivement closes.
C'est le compte-rendu de la dernière grande mission archéologique.
Perken regardait la date.
1908 ? Rien d'important entre 1908 et la guerre. Depuis, des explorations de détails. Et tout cela est du premier travail. Des recoupements me permettent d'être assuré que la longueur que l'on donne ici
aux unités de mesure des voyageurs anciens doit être rectifié. Il faudra contrôler, le long de la voie, plusieurs affirmations que l'on traite de légendes et qui sont pleines de promesses. Et ne parlons pas que du Cambodge. Vous savez qu'au Siam, on n'a rien fait. Une réponse au lieu de ce silence. À quoi songez-vous ? La boussole peut donner une indication générale. Vous comptez ensuite sur les indications des indigènes, de ceux dont les villages sont peu éloignés de l'ancienne voie, oui. Peut-être. Au Siam, surtout, je sais assez bien le Siamois pour qu'il parle. J'ai moi-même rencontré de ces temples. Ce sont d'anciens temples brahmaniques, n'est-ce pas ?
Oui.
Donc, aucun fanatisme, nous serions toujours parmi les bouddhistes. Le projet n'était pas si fantaisiste. Vous connaissez bien cet art ?
Je n'étudie que lui, depuis un bon moment. Depuis...
Quel âge avez-vous, au fait ?
26 ans.
Ah ?
J'ai l'air plus jeune, oui, je sais.
Ce n'était pas de l'étonnement, c'était de l'envie.
Le ton n'était pas ironique.
L'administration française n'aime guère.
Je suis chargé de mission.
L'étonnement empêcha Perkin de répondre aussitôt. Je comprends de mieux en mieux.
Oh, mission gratuite.
Nos ministères n'en sont pas avares.
Claude revoyait le chef de bureau courtois et pompeux, les couloirs déserts où des rayons de soleil s'écrasaient sur des cartes ingénues, où des bourgades, Vientiane, V-I-E-N, très d'union, T-I-A-N-E, Tombouctou, T-O-M-B-O-U-C, T-O-U, Djibouti, D-J-I-B-O-U-T-I, régnaient au centre de grands cercles roses, semblables à des capitales, l'ameublement de comédie, grenat et or.
Rapport avec l'Institut d'Hanoï et bon de réquisition, je vois, reprit Perkin.
Peu de choses, mais tout de même.
Il regardait de nouveau la carte. Transport, charrette.
Ah, dites-moi, que faut-il penser des 60 kilos réglementaires ?
Rien, aucune importance. De 50 à 300 kilos, suivant tout ce que vous rencontrerez. Donc, charrette. Si, en un mois de recherche, on n'avait rien trouvé,
invraisemblable.
Vous savez bien que les dents grecques, D-A-N-G, trait d'union R-E-K, en fait, sont inexplorées.
Moins que vous ne le croyez.
Et que les indigènes connaissent les temples.
Comment moins que je ne le crois ?
Nous y reviendrons.
Il se tut un instant.
L'administration française, je la connais. Vous n'êtes pas des siens. Elle créera des obstacles, mais ce danger n'est pas grand. L'autre l'est davantage, même à deux.
L'autre,
celui d'y rester. Les Moyes, eux, la forêt, la fièvre des bois.
C'est ce que je pensais.
N'en parlons donc plus. Moi, j'ai l'habitude. Parlons d'argent.
C'est bien simple. Un petit bas-relief, une statue quelconque, valent une trentaine de mille francs.
Francs or ?
Vous êtes trop gourmand.
Tant pis. Il m'en faut 10 au moins. 10 pour vous, 20.
20 pièces.
Évidemment, ça n'est pas le diable.
Et d'ailleurs, un seul bas-relief, s'il est beau, une danseuse par exemple, vaut au moins 200 000 francs.
Il est composé de combien de pierres ?
3, 4.
Et vous êtes certain de les vendre ?
Certain. Je connais les plus grands spécialistes de Londres et de Paris. Et il est facile d'organiser une vente publique.
Facile, mais long. Rien ne vous empêche de vendre directement, j'entends, sans vente publique. Ces objets sont de toute rareté. La grande hausse des objets asiatiques date de la fin de la guerre et on n'a rien découvert depuis. Autre chose, supposons que nous trouvions les temples. Nous, murmura Claude, comment comptez-vous dégager les pierres sculptées?
Ce sera le plus difficile. J'ai pensé deux gros blocs, si je me souviens bien. Attention, les temples khmers sont construits sans ciment ni fondation. Khmer, K-H-M-E-R-S. C'est le nom de la population du Cambodge. Des châteaux de dominos. Chaque domino, voyons, 50 cm au carré de section, 1 mètre de long, 750 kg à peu près. Légers objets. J'ai pensé aussi de long pour n'emporter que la face sculptée sur peu d'épaisseur. Impossible. Les scies à métaux, plus rapides, j'en ai. Il faut surtout compter sur le temps, qui a fichu presque tout par terre, sur le figuier des ruines et les incendiaires siamois qui ont accompli assez bien le même travail. J'ai rencontré plus d'éboulis que de temples, et les chercheurs de trésors, eux aussi, ont passé par là. Jusqu'ici, je ne pensais guère aux temples qu'en fonction d'eux. Perken avait abandonné la carte. Il regardait l'ampoule. Claude se demandait s'il réfléchissait, car ce regard perdu était presque d'un rêveur. Que connais-je de cet homme ? Pensait-il une fois de plus, frappé par ce visage d'absent en relief dur sur le lavabo. Les grands coups lents des machines battaient le silence et chacun pesait sur cet adversaire pour lui arracher une acceptation. Alors, Perken, repoussant la carte, s'assit sur la couchette. Laissons les objections. Ce projet se défend, toute réflexion faite. Il est vrai que je ne réfléchissais pas, je rêvais au moment où j'aurais de l'argent. Je ne prétends pas tenter les choses qui doivent réussir d'elles-mêmes. Celles-là, je les manque. Pourtant, comprenez bien que si j'accepte, c'est avant tout parce que je dois aller chez les Moy. Où ? Plus au nord, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je ne saurai exactement où je vais qu'à Bangkok. Je vais rechercher, un homme pour qui j'avais une grande sympathie et une grande méfiance. On me remettra à Bangkok l'enquête des miliciens indigènes sur sa disparition, comme ils disent. Je crois donc vous accepter. Oui, qu'il est parti dans la région dont je me suis occupé. S'il est mort, je saurai à quoi m'en tenir. Sinon, je ne tiens pas à sa présence, il gâchera tout. Le passage de l'un des sujets à l'autre était trop rapide. À peine Claude pouvait-il écouter. Sitôt après l'acceptation, cet homme n'existait pas. Il suivit le regard de Perken. C'était son image à lui, Claude, que ce regard fixait, mais dans la glace. Son propre front, son menton avançant, il les vit une seconde avec les yeux d'un autre. Et c'est à lui que cet autre pensait. Ne répondez que s'il vous plaît de répondre. Le regard devint plus précis. Pourquoi allez-vous tenter cela ? Je pourrais vous répondre, parce que je n'ai presque plus d'argent, ce qui est vrai. Il y a d'autres manières d'en gagner, et pourquoi en voulez-vous ? De toute évidence, ce n'est pas pour en jouir. Et vous, pensa Claude.
Être pauvre n'empêche de choisir ses ennemis, répondit-il. Je me méfie de la petite monnaie de la révolte. Perken le regardait toujours, de ce regard à la fois appuyé et perdu, plein de souvenirs qui faisaient songer Claude à celui des prêtres intelligents. L'expression en devint plus dure. On ne fait jamais rien de sa vie, mais elle fait toujours quelque chose de nous. Pas toujours. Qu'attendez-vous de la vôtre ? Claude ne répondit pas tout d'abord. Le passé de cet homme s'était si bien transformé en expérience, en pensée à peine suggérée, en regard, que sa biographie en perdait toute importance. Il ne restait entre eux, pour les attacher, que ce que les êtres ont de plus profond. Je pense que je sais surtout ce que je n'en attends pas. Chaque fois que vous avez dû opter, ce n'est pas moi qui opte, c'est ce qui résiste. Mais à quoi ? Il s'était assez souvent posé lui-même cette question pour qu'il pût répondre aussitôt à la conscience de la mort. La vraie mort, c'est la déchéance. Perken maintenant regardait dans la glace son propre visage. Vieillir, c'est tellement plus grave. Accepter son destin, sa fonction, la niche à chien élevée sur sa vie unique. On ne sait pas ce que c'est que la mort quand on est jeune. Et tout à coup, Claude découvrit ce qui le liait à cet homme qu'il avait accepté sans qu'il comprît bien pourquoi. L'obsession de la mort. Perken prenait la carte. Je vous la rapporterai demain. Il serra la main de Claude et sortit. L'atmosphère de la cabine retomba sur Claude comme la porte d'un cachot. La question de Perken demeurait avec lui, tel un autre prisonnier, et son objection. Non, il n'y avait pas tant de manières de gagner sa liberté. Il avait réfléchi naguère, sans avoir la naïveté d'en être surpris, aux conditions d'une civilisation qui fait à l'esprit une part telle que ceux qui s'en nourrissent, gavés sans doute, sont doucement conduits à manger à prix réduit. Alors, aucune envie de vendre des autos, des valeurs ou des discours comme ceux de ses camarades dont les cheveux collés signifiaient la distinction, ni de construire des ponts comme ceux dont les cheveux mal coupés signifiaient la science. Pourquoi travaillaient-ils, eux ? Pour gagner en considération. Ils haïssaient cette considération que les autres recherchaient. La soumission à l'ordre de l'homme sans enfant et sans Dieu est la plus profonde des soumissions à la mort. Et donc chercher ses armes ou ne les cherche pas les autres. Ce que doit exiger d'abord de lui-même celui qui se sait séparé, c'est le courage. Que faire du cadavre des idées qui dominaient la conduite des hommes lorsqu'ils croyaient leur existence utile à quelque salut ? Que faire des paroles de ceux qui veulent soumettre leur vie à un modèle, ces autres cadavres ? L'absence de finalité donnée à la vie était devenue une condition de l'action. À d'autres, de confondre l'abandon au hasard et cette harcelante préméditation de l'inconnu. Arracher ses propres images au monde stagnant qui les possède. Ce qu'ils appellent l'aventure, pensait-il, n'est pas une fuite, c'est une chasse. L'ordre du monde ne se détruit pas au bénéfice du hasard, mais de la volonté d'en profiter. Ceux pour qui l'aventure n'est que la nourriture des rêves, ils les connaissaient. Joue, tu pourras rêver. L'élément suscitateur de tous les moyens de posséder l'espoir, il le connaissait aussi. Pauvreté. l'austère domination dont il venait de parler à Perken, celle de la mort, se répercutait en lui avec le battement du sang à ses tempes, aussi impérieuse que le besoin sexuel. Être tué, disparaître, peu lui importait. Il ne tenait guère à lui-même et il aurait trouvé ainsi son combat à défaut de victoire. Mais accepter vivant la vanité de son existence comme un cancer, vivre avec cette tiédeur de mort dans la main, d'où montait, sinon d'elle, cette exigence de choses éternelles, si lourdement imprégnée de son odeur de chair. Qu'était ce besoin d'inconnu, cette destruction provisoire des rapports de prisonniers à maître, que ceux qui ne la connaissent pas nomment aventure, sinon sa défense contre elle. Défense d'aveugle qui voulait la conquérir pour en faire un enjeu. Posséder plus que lui-même, échapper à la vie de poussière des hommes qu'il voyait chaque jour. À Singapour, Perken avait quitté le bateau pour monter à Bangkok. L'accord était conclu. Claude le rejoindrait à Phnom Penh, P-N-O-M, trait d'union P-E-N-H, après avoir fait viser à Saïgon, S-A-Y-G-O-N, sa lettre de mission et rendu visite à l'Institut français. Ses premiers moyens d'action allaient dépendre de son accord avec le directeur de cet institut, hostile aux initiatives comme la sienne. Un matin, le temps était de nouveau mauvais, il vit à travers le hublot de sa cabine des passagers, l'index tendu vers un spectacle. Il se hâta de monter sur le pont. Par une déchirure des nuages accumulés, le soleil projetait une lumière blême qui éclairait, au ras de l'eau décomposée, la côte de Sumatra, S-U-M-A-T-R-A. Il regarda à l'aide de la jumelle les monstrueuses frondaisons qui dévalaient du sommet des monts jusqu'à la grève, hérissées çà et là de palmes et noires dans l'étendue sans couleur. De loin en loin, au-dessus des crêtes, brillaient des feux pâles d'où montaient lourdement des fumées. Plus bas, des fougères arborescentes se détachaient en clair sur des masses d'ombre. Il ne pouvait délivrer son regard sur des taches dans lesquelles se perdaient les plantes. Se frayer un chemin à travers une semblable végétation, d'autres l'avaient fait. Il pouvait donc le faire. À cette affirmation inquiète, le ciel bas et l'inextricable tissu des feuilles criblées d'insectes opposaient leur affirmation silencieuse. Il regagna sa cabine. Son dessin, D-E-2-S-E-I-N, tant qu'il l'avait supporté seul, l'avait retranché du monde. Lié à un univers incommunicable comme celui de l'aveugle ou du fou, un univers où la forêt et les monuments s'animaient peu à peu lorsque son attention se relâchait, hostile comme de grands animaux. La présence de Perken avait tout ramené à l'humain, mais il sombrait de nouveau, lucide et tendu, dans son intoxication d'obsédé. Il rouvrait ses livres aux pages marquées. Les motifs d'ornementation sont très ruinés par l'humidité constante du sous-bois et le fouettement des grandes pluies. La voûte est totalement effondrée. Sans doute trouverait-on des monuments dans cette région, maintenant à peu près déserte, couverte de forêts clairières à travers lesquelles errent des troupeaux d'éléphants et de buffles sauvages. Les blocs de grès dont les voûtes étaient formées remplissent l'intérieur des galeries d'un chaos inextricable. Cet état de délabrement particulièrement lamentable, paraît due à l'emploi du bois dans la construction. De grands arbres poussés çà et là sur ces amas dépassent maintenant le couronnement des murs, leurs racines noueuses les enferment dans un réseau à mailles serrées. Le pays est presque désert. À l'aide de quoi lutterait-il ? Quand s'accentuait le bruit des machines, il essayait de se délivrer des deux mots « l'Institut français, l'Institut français, l'Institut français » comme d'une scie. « Je connais ces gens-là », avait dit Perken. « Vous n'êtes pas des leurs. » Évidence. Il prendrait garde. Il savait pourtant de reste que des hommes devinent ceux qui refusent leurs acceptations et que l'athée fait beaucoup plus scandale depuis qu'il n'a plus de foi. Son grand-père n'avait vécu que pour le lui enseigner. Ces gens possédaient les deux tiers de ses armes. Se libérer de cette vie, livrée à l'espoir et au songe, échapper à ce paquebot passif, Chapitre 3, page 41. Devant une fenêtre dont le carré de lumière se plaquait sur des palmes et un mur verdi jusqu'au bleu par les pluies tropicales, Albert Ramège, R-A-M-E accent grave G-E-S, directeur de l'Institut français, lissait de la main sa barbe châtain en regardant entrer M. Vanek. Le ministère des colonies, monsieur, nous avait informé de votre départ. J'ai donc appris avec plaisir hier votre arrivée par la communication téléphonique que vous m'avez adressée. Il va sans dire que dans la mesure où nous pouvons vous être utiles, nous sommes à votre disposition. Vous trouverez ici, chez tous nos collaborateurs, si vous avez besoin de conseils, la bienveillance la plus cordiale. Nous mettrons cela au point tout à l'heure. Il quitta son bureau et vint s'asseoir près de Claude. « La bienveillance commence, » pensa celui-ci. Le ton de la voix du directeur devint plus familier. « Je suis content de vous voir ici, cher monsieur, et j'ai lu avec grande attention les intéressantes communications relatives aux arts asiatiques que vous avez publiées l'année dernière. Et aussi, en apprenant votre arrivée, je l'avoue, votre théorie. Je dois dire que j'ai été plus attiré que convaincu par des considérations que vous avez exposées, mais en vérité, je suis intéressé. L'esprit de votre génération est curieux. Je posais ces idées pour, il pensa déblayer, il hésita, pour aller en toute liberté vers une autre qui m'intéresse davantage. Ramège l'interrogeait du regard. Claude sentait vivement son désir de ne pas se confondre avec la fonction, de se montrer supérieur à elle, de le recevoir comme un invité, l'ennui aidant sans doute et peut-être quelque esprit de corps. Claude connaissait, de reste, l'hostilité comique qui oppose à tous les autres les archéologues formés par la philologie. Ramège rêvait de l'Institut. Impossible de parler immédiatement de sa mission. Son interlocuteur en eût été aussi sûrement blessé que d'une injure. J'en viens donc à dire que la valeur essentielle accordée à l'artiste nous masque l'un des pôles de la vie de l'œuvre d'art, l'état de la civilisation qui la considère. On dirait qu'en art, le temps n'existe pas. Ce qui m'intéresse, comprenez-vous, c'est la décomposition, la transformation de ces œuvres, leur vie la plus profonde qui est faite de la mort des hommes. Toute œuvre d'art, en somme, tend à devenir un mythe. Il sentait qu'il résumait trop sa pensée, obscure à force de concision. Gêné par le désir d'en venir à l'objet de sa visite, mais aussi de se concilier son interlocuteur intrigué. Ramège réfléchissait. Le son des lourdes gouttes qui dehors tombaient une à une pénétra dans la pièce. Quoi qu'il en soit, c'est curieux, les musées sont pour moi des lieux où les œuvres du passé devenues mythes dorment, vivent d'une vie historique en attendant que les artistes les rappellent à une existence réelle. Et si elles me touchent directement, c'est parce que l'artiste à ce pouvoir de résurrection. En profondeur, toute civilisation est impénétrable pour une autre. Mais les objets restent, et nous sommes aveugles devant eux jusqu'à ce que nos mythes s'accordent à eux. Ramège continuait à sourire, curieux et attentif. Il me prend pour un amateur de théorie, pensa Claude. Il est blafard, l'abcès au foie sans doute. Il me comprendrait tellement mieux s'il sentait que ce qui m'attache là, c'est l'acharnement des hommes à se défendre contre leur mort, par cette éternité chaotée. Si je reliais ce que je lui dis à son abcès, passons. Il sourit à son tour. Et ce sourire que Ramège attribua au désir de lui être agréable établit entre eux une certaine cordialité. Au fond, dit enfin le directeur, vous n'avez pas confiance, voilà la vérité, vous n'avez pas confiance. Oh, garder sa confiance n'est pas toujours facile, je le sais bien. Voyez ce morceau de poterie, là, sous ce livre, oui. Il nous est envoyé de Tientsin, T-I-E-N, trait d'union, T-S-I-N. Les dessins sont grecs, archaïques sans aucun doute, 6e siècle au moins avant Jésus-Christ. Et le dragon chinois figure sur le bouclier. Que de choses à reprendre dans les idées que nous avions des rapports entre l'Europe et l'Asie avant l'ère chrétienne. Que voulez-vous ? Lorsque la science nous montre que nous nous sommes trompés, il faut recommencer. Claude se sentait plus près de Ramège maintenant, en raison de la tristesse avec laquelle il parlait. Ses découvertes l'avaient-elles obligé à renoncer à un travail depuis longtemps entrepris ? Par contenance, Claude regardait d'autres photos, les unes de statues khmer, K-H-M-E, accent grave, R-E-S, les autres de statues cham, C-H-A-M-E-S, séparées en deux séries. Pour rompre le silence qu'il s'établissait, il demanda, indiquant les deux paquets. Que préférez-vous ? Que voulez-vous que je préfère ? Je fais de l'archéologie. Je suis revenu de ses goûts, disait le ton, de cette naïveté de la jeunesse. Il devina un recul et s'en irrita légèrement. Quand il ne questionnait pas, il entendait mener le jeu. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 44, La Voix royale, par André Malraux.